Gabriel Attal avait promis donc ces mesures après deux faits divers particulièrement médiatisés. Deux collégiens violemment battus devant leur école. L'un d'entre eux avait d'ailleurs succombé à ses blessures en banlieue parisienne à Viry-Châtillon. Et quelques jours plus tard, c'est à Grande-Synthe, dans le Nord, qu'un jeune homme avait été battu à mort. Un garçon d'une vingtaine d'années tué par deux mineurs qu'il avait d'abord contacté en se faisant passer pour une fille sur une messagerie en ligne. Cette affaire, elle a donné lieu à un déferlement de messages de haine et d'appels à la vengeance sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le cousin d'un des suspects, un adolescent de 15 ans, a été violemment agressé durant le week-end. Et nous recevons pour en parler le secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats, vice-procureur du tribunal de Melun, Aurélien Martini. Bonjour.
Bonjour.
On a vu depuis quelques jours circuler les noms des agresseurs supposés du jeune Philippe tué à Grande-Synthe, leurs photos aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un phénomène que vous observez régulièrement?
Oui, c'est un phénomène qui est en augmentation, c'est-à-dire cette volonté par des groupes constitués de gens de se substituer à la justice, se substituer à l'État pour différentes raisons, parce qu'ils trouvent qu'elle n'est pas assez sévère, parce qu'ils trouvent qu'elle est trop lente. En tous les cas, c'est un phénomène plus global que ce qui a pu être observé ces derniers temps, qui nous remonte du terrain, oui.
Est-ce qu'on sait de qui viennent ces appels à la vengeance sur les réseaux sociaux? Quels sont les profils de ceux qui publient et qui relaient ces messages?
Alors, c'est très variable. D'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que les réseaux sociaux, ça ne garantit pas l'anonymat. On n'est pas anonyme sur les réseaux sociaux. On peut être identifié. Ça signifie faire des enquêtes qui sont plus ou moins longues, plus ou moins complexes, mais on n'est pas anonyme et on est toujours identifiable sur les réseaux sociaux. Sur les motivations et les profils types, si l'on peut dire, ils sont variables. Certains sont animés par une conviction. C'est le cas des personnes qui se donnent pour mission de lutter contre les auteurs d'infractions sexuelles commises contre les mineurs, qui se constituent parfois en association. D'autres sont mus par des considérations plus diverses. Et parfois, il faut bien le dire aussi, c'est un exutoire aussi à leur propre violence.
On n'est pas anonyme sur les réseaux sociaux, nous dites-vous, ça veut dire qu'on peut être sanctionné pour ce type de message?
Oui, il faut faire très attention parce que, au-delà du fait qu'on ne doit pas présenter quelqu'un comme coupable avant qu'il ait été condamné, ça c'est le jeu de la présomption d'innocence, il faut faire attention lorsque on lance des appels à retrouver, à punir, à passer à tabac. On peut se retrouver dans la position d'être un auteur intellectuel d'infraction, c'est-à-dire un complice par instigation, et donc encourir les peines de l'infraction finalement commise. Par exemple, si vous appelez à aller taper sur quelqu'un et que des gens le font vraiment, vous pouvez être considéré comme un complice par instigation. Donc il faut faire très attention, il y a un risque, à la fois en termes voilà, d'indemnisation, mais aussi un risque pénal.
Les personnes qui publient ces messages et qui critiquent parfois le système judiciaire ont-elles une intention réelle de se substituer à la justice, comme vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure?
Alors, c'est variable. Parfois, c'est le cas. Parfois, le but, c'est de concourir à la justice, bien que souvent, c'est une gêne et une entrave au bon fonctionnement des enquêtes. Mais il n'y a pas de profil type à proprement parler. Et les motivations, elles peuvent différer selon les personnes. Certains veulent effectivement se faire justice à eux-mêmes. On
Se
est alors dans de
venger.
la pure vengeance. Oui, voilà, on est dans de la pure vengeance privée qui peut dériver vers de la vengeance. Et d'autres veulent apporter leur pierre à l'édifice. Et dans ce cadre-là, on peut distinguer peut-être ceux qui lancent des appels à identifier de ceux qui lancent des appels à interpeller ou à mettre la main sur ceux qui auraient commis des infractions.
Et alors, quelles sont les conséquences justement sur le travail d'enquête et sur celui de la justice?
Alors, il est clairement délétère, puisque d'abord, on peut faire fuiter des informations qu'il serait utile de garder secrètes pour la bonne marche de l'enquête. Par exemple, quand vous voyez sur les réseaux sociaux que tel personne recherchée a été localisée dans tel endroit, eh bien, elle peut avoir envie d'en partir, alors même que les services de police pouvaient avoir fait cette localisation, mais ne pourront pas l'interpeller. Ou si quelqu'un se sent menacé, il peut avoir tendance à faire disparaître les preuves. Alors ça peut être un téléphone portable, ça peut être des conversations, ça peut être l'objet ou le moyen de commettre l'infraction, une barre de bois, une barre de fer qu'on va faire disparaître parce qu'on se sait recherché. Et à ce moment-là, la perquisition qui allait intervenir un ou deux jours plus tard, eh bien, sera beaucoup moins utile parce que les indices auront disparu. Donc, il y a un vrai risque pour l'enquête d'alerter en fait les suspects ou les personnes qui peuvent être suspectées d'avoir commis des infractions.
Alors, nous étions en ligne juste avant de vous appeler avec notre reporter à Nice, où se trouve Gabriel Attal. Le Premier ministre, la semaine dernière, a fait toute une série d'annonces fracassantes. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions concernant la violence des plus jeunes en France?
Alors, il faudrait beaucoup de temps pour. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et certaines mériteraient qu'on s'y arrête en détail. Mais simplement, d'un point de vue global, les magistrats sont aux prises avec la réalité. Et à l'Union syndicale des magistrats, il n'est pas question de contester que le ressenti de nos collègues sur le terrain, qu'il y a une hausse de la violence des mineurs avec des passages à l'acte peut-être plus précoces et surtout plus violents s'agissant du premier acte. Donc ça, c'est une réalité, mais qui est en phase avec la société que nous vivons, qui est sans doute une société plus violente. En face de cela, la question de la temporalité s'agissant des mineurs est extrêmement importante. Mais quand on parle de temporalité, il faut marcher sur ses deux jambes, et il faut avoir une temporalité brève concernant l'assistance éducative et aussi concernant la punition, l'aspect pénal. Mais on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que notre système français fait reposer sur les épaules d'un juge et d'un procureur les deux, l'assistance éducative d'un côté et la punition des mineurs de l'autre. Les deux
Merci.
vont de pair.
Merci beaucoup Aurélien Martini d'avoir été en
Mais c'est
ligne
moi qui vous
avec nous.
remercie.
Vous êtes, je le rappelle, vice-procureur au tribunal de Melun et secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Merci.